Bonsoir. Ouverture ce lundi à Kinshasa du séminaire sur les missions des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus. Dans son discours à cette occasion, le chef de l'État s'est engagé à les sanctionner à l'issue d'une évaluation trimestrielle de leur performance. Et ce, sur base d'un contrat programme entre ses responsables territoriaux et le gouvernement central. Félix Tshisekedi a aussi réaffirmé sa détermination à combattre les antivaleurs qui gangrènent les institutions du pays et à mettre fin à l'impunité. Quelle lecture faire de cette déclaration? C'est le thème de notre émission de ce soir. Participe au débat Alphonse Ngoyi Kasandji, député national et ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental. Monsieur Ngoyi Kasandji, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Laurent Simon Ikenge, député national et cadre du MS, parti membre de la plateforme politique Lamuka. Monsieur Ikenge, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Soudi Kimputu Alimasi, expert en décentralisation. Monsieur Kimputu, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Venance Biaombe depuis Fizi dans le sud Kivu. Je constate que le chef de l'État a entamé une belle initiative. J'apprécie plus ce programme qui permettra au pays de décoller avec cette évaluation trimestrielle. Merci de nous suivre à Kinshasa sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les actions des gouverneurs et vice-gouverneurs seront désormais évaluées trimestriellement sur base d'un contrat-programme avec le gouvernement central. L'annonce est du chef de l'État ce lundi lors de l'ouverture à Kinshasa du premier séminaire des gouverneurs des provinces. Dans son allocution, le chef de l'État a mis l'accent sur la bonne gouvernance qui doit caractériser la gestion des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ceci passe, selon le président de la République, par la mise en place d'un contrat-programme entre le gouvernement central et les gouverneurs et vice-gouverneurs, contrat-programme qui permettrait au chef de l'État de faire une évaluation trimestrielle de l'action de ses territoriaux et mettre ainsi fin à l'impunité au sein de l'administration territoriale. On va suivre un extrait du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que nous propose Jean-Pierre Elali.
Vous pouvez ici comprendre que la tâche qui vous attend est lourde et les défis à relever sont énormes. Je veillerai dans le cadre de la rétrocession que les moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Au cours de ce séminaire, où différents intervenants vont développer en profondeur les axes et piliers que je viens de vous dévoiler à titre indicatif, je voudrais quant à ceux qu'un contrat-programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que, vous l'avez bien compris, que le temps de l'impunité tant décrié est révolu. C'est à ce titre que j'ai déjà eu à suspendre un ministre et quelques mandataires publics coupables des actes de mégestion. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, vous êtes sans savoir que vous avez été élus pour servir le peuple d'abord et le reste immédiatement après.
Alphonse Ngoyi Kasandji, je rappelle que vous êtes député national et ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental. Quelle lecture vous faites de cette déclaration du chef de l'État qui s'est engagé à sanctionner à l'issue d'une évaluation trimestrielle de leur performance, je voulais dire, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces?
Bien, Madame Kelly, je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Capi et tous les intervenants à cette émission, Maître Soudi et Honorable Laurent, je les salue tous. Si j'interviens, c'est pour saluer l'engagement du chef de l'État à combattre l'impunité qui gangrène les institutions de la République. C'est une bonne chose, mais je pense que ce combat ne doit pas être monolinéaire, il doit être polylinéaire, parce que pour combattre la corruption, les antivaleurs, la fraude, etc., il faut également impliquer la population. C'est la population qui vit dans cela. Donc, il faut une autre démarche pour pouvoir changer la mentalité de la population. De l'autre côté, faire en sorte que les institutions soient assainies aussi de ces fléaux qui nous ont longtemps gangrénés. Alors, en voyant les engagements du chef de l'État à combattre tous ces fléaux-là, mais le contrat programme qu'il inflige aux institutions provinciales sur lesquelles il s'engage à les évaluer trimestriellement et les sanctionner, j'ose croire que c'est une bonne chose, une bonne démarche. Le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. La Constitution le dit en son article 69, alinéa 3. Mais le gouverneur de province présente leur programme du gouvernement devant les assemblées provinciales. Ce sont les assemblées provinciales qui sanctionnent les gouvernements provinciaux s'ils n'arrivent pas à remplir leur engagement devant l'Assemblée provinciale. Mais j'estime que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, pourrait, n'est-ce pas, passer par les assemblées provinciales qui peuvent sanctionner les gouverneurs de province. J'estime que c'est dans cette démarche-là. Mais je ne vois pas vraiment directement le chef de l'État sanctionner les gouverneurs de province s'ils n'ont pas rempli le contrat trimestriel.
Ça serait donc violer la Constitution, selon vous?
Bon, en principe, ce n'est pas une violation de la Constitution. J'estime que le chef de l'État pourrait avoir un mécanisme où il entrerait en contact avec les assemblées provinciales pour voir comment est-ce que le gouverneur exécute le programme sur lequel ils sont engagés devant l'Assemblée provinciale, selon la Constitution.
Est-ce que ce contrat programme est une façon de demander, de pousser les gouverneurs des provinces à se mettre au travail pour le développement des provinces?
Oui, c'est un stimulus pour les pousser à travailler en tenant compte du fait que les chefs de l'État suivent en amont. Et de l'autre côté, les institutions provinciales suivent aussi. Donc, mais le tout doit respecter les lois du pays. Tout cela, toute la bonne volonté doit aussi respecter les garde-fous que le constituant a mis en place. C'est-à-dire, le gouverneur présente son programme avec son gouvernement devant l'Assemblée provinciale. C'est à partir de ce programme qu'on investit le gouvernement provincial. Et à ce moment-là, quand le gouverneur et son gouvernement ne remplissent pas le contrat sur lequel ils se sont engagés devant l'Assemblée provinciale, on peut les sanctionner par une motion de défiance ou une motion de censure. Mais le chef de l'État peut intervenir pour sanctionner un gouverneur en cas de faute, en cas de trouble persistantes qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des institutions provinciales. En ce moment-là, le chef de l'État intervient, il peut sanctionner l'autorité provinciale. Mais le gouvernement, les institutions nationales peuvent aussi sanctionner l'autorité provinciale en cas de faute grave commise par le gouverneur de province dans l'exercice des services publics déconcentrés. Faute grave, en ce moment-là, le pouvoir central peut saisir l'Assemblée provinciale pour faire appliquer l'article 41 et 42 de la loi sur la libre administration des provinces. Donc, on se réfère toujours à l'Assemblée provinciale. Je ne vois pas comment est-ce que le gouverneur de province peut se sanctionner directement par les instances nationales.
Alors, dans son discours, le chef de l'État a rappelé aux gouverneurs qui sont ses représentants, qui sont ses dignes représentants dans les provinces. Ils ont l'obligation d'élaborer des programmes respectifs qui seront adoptés par les assemblées provinciales en intégrant la vision du chef de l'État. Est-ce qu'une façon de dire à ces gouverneurs, attention, n'allez pas à l'encontre de ma vision lorsque vous allez présenter vos programmes respectifs?
Absolument. Vous savez que le chef de l'État est le seul qui a est élu par l'ensemble du peuple congolais. Et il a une vision pour le pays, le bien-être du pays. Il le dit lui-même de la population, il le dit lui-même et le peuple d'abord avant toute chose. Donc c'est le bien-être qui le préoccupe. Et j'ose croire qu'un bon dirigeant, un bon gouverneur, il doit mettre au centre de son action le peuple, sa population. Et donc, sa vision doit être intégrée par les autorités provinciales qui sont ses représentants en province, qui sont les représentants du pouvoir central en province. Donc, c'est une bonne chose d'intégrer sa vision dans les programmes qui seront présentés devant les assemblées provinciales pour Merci. L'investiture des gouvernements provinciaux.
Merci, Monsieur Ngoï Kasanji. Laurent Simon Ikenge, député national et cadre du MS, parti membre de la plateforme politique Lamuka. Votre lecture par rapport à cette déclaration du chef de l'État.
Je voudrais d'abord commencer par saluer tous mes co-débatteurs, à savoir le gouverneur Ngoï Kasanji et Maître Soudi. Je crois que c'est ça le nom. Mm-hmm. Et aussi tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, maintenant. Je crois qu'en suivant les discours du président de la République, chef de l'État, je constate que c'est une innovation. Une innovation de signer un contrat, programme entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Ça, c'est du jamais vu dans le pays.
Vous saluez ça?
Je salue. Je salue également, dans son analyse, le fait de pointer du doigt l'homme qui doit être au centre de toute action, de toute préoccupation du gouvernement pendant la législature. C'est une bonne chose. Parce qu'il vous souviendra que lors des dernières conférences de presse du président Kabila, il avait reconnu qu'il a fait beaucoup de bonnes choses dans le pays, mais s'il peut se souvenir d'un échec, c'était l'homme congolais, il n'a pas réussi à le transformer. Et si le nouveau peut justement prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire l'homme congolais, le transformer, ça va être une bonne chose. Mais malheureusement, je constate que le président de la République risque de ne pas avoir les moyens de sa politique.
Pourquoi?
Parce qu'ici, il amène du vin nouveau, mais il va mettre dans les vieilles outres. Les vieilles outres. La majorité de ces gouvernements provinciaux sont pilotés et dirigés par le FCC, qui est, je crois qu'il contrôle déjà jusque-là une vingtaine de provinces sur 26.
Mais c'est des nouvelles personnes qui arrivent.
Je suis un politicien. Les nouvelles personnes, c'est comme le nouveau soldat, il dépend de la discipline qu'il trouve, il dépend du commandant. Vous avez remarqué que tous les nouveaux gouverneurs, à leur arrivée à Kinshasa, ont été reçus, non pas par l'actuel président de la République, mais par un autre maître. Et je ne sais pas, et comme on dit que personne ne peut suivre deux maîtres, ne peut avoir deux maîtres, je ne sais pas si les nouveaux gouverneurs vont suivre le maître légal, le maître constitutionnel ou le deuxième maître que je connais pas. Voilà, c'est ça la difficulté. Et s'agissant de l'homme, j'aimerais ici rectifier ce que le gouverneur Kasanji a dit. La sanction n'est pas seulement négative. La sanction peut être aussi positive, c'est-à-dire encourager les gouverneurs qui sauront respecter leur contrat, leur part. Et là, je crois que c'est encore une innovation, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est une bonne chose. Ceux qui auront fait l'essentiel Eh bien, le président de la République va voir quelle est la sanction positive à leur endroit. Et ici, je crois que...
Et pour ce qui est de la sanction négative, est-ce que le chef de l'État, au nom de la libre administration des provinces, il a le pouvoir ou le droit de sanctionner les gouverneurs des provinces?
Bon, notre difficulté actuellement, c'est que nous ne connaissons pas les termes de référence du contrat. Nous ne savons pas quels sont les droits des gouverneurs et quelles sont surtout leurs obligations vis-à-vis de ces contrats-là. Alors, pour revenir à votre question, madame, le président de la République voudrait obtenir une légitimité de résultat. Il sait qu'il n'a pas la majorité ni à l'Assemblée nationale ni dans les assemblées provinciales. Mais je crois que tel que j'essaye de l'entendre dire, je crois qu'il veut obtenir les résultats. Et le peuple congolais, je crois qu'il faut qu'on se méfie de ce peuple, parce que la plupart des temps, les gens disent que nous sommes mous, c'est un peuple mou, un peuple qui ne bouge pas, mais je crois qu'il ne ressemble pas à cette image qu'on lui colle. Le peuple congolais, quand il va constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il peut influencer les députés provinciaux qui peuvent exercer des pressions sur le gouverneur. Et ici, on va pas tarder à constater des conflits dans telle province ou dans telle autre. Et là, le mécanisme de sanctions négatives peut également opérer.
Merci Laurent Simon Ikenge, maître Soudi Kimputu, Alimasi, expert en décentralisation. J'imagine que vous saluez aussi cette innovation de signer un contrat programme entre le gouvernement central et les gouverneurs des provinces.
Merci beaucoup, Kelly. Moi, je vais commencer par saluer aussi tous les co-débatteurs, l'honorable Goïka Sanji, qui est l'un des gouverneurs qui ont été dans les affaires pendant 12 ans depuis les élections de 2017. Donc c'est quelqu'un d'une grande expérience au niveau de la gestion des provinces. Je salue aussi Monsieur Simon Kenge, qui est en train de débattre avec nous autour de ces sujets. Je voudrais féliciter le président de la République, personnellement comme expert en décentralisation, pour avoir parlé aujourd'hui du contrat programme avec le gouverneur des provinces. Je le félicite pour avoir parlé de la sanction et même la notion d'évaluation, qui est un problème entre le président de la République et les provinces, parce que cette notion, dans ce qu'on appelle la conférence des gouverneurs, qui est une instance qui réunit ici le président de la République comme institution, c'est même un correctif que je voudrais apporter comme expert en décentralisation. Ces contraintes ne doivent pas être entre le gouvernement central et les provinces, ou l'exécutif national qui est bicéphale. Ici, ces contrats doivent exister entre le président de la République et les gouverneurs de province. Le président de la République, c'est l'article 69, combiné à l'article 200, qui demande à ce que le chef de l'État puisse se retrouver avec les gouverneurs de province pour adopter les politiques à mettre en œuvre, l'ensemble des politiques à mettre en œuvre. Et cette instance va permettre à ce que, désormais, qu'il y ait une manière de faire le suivi et l'évaluation des programmes qui sont mis en œuvre au niveau des provinces. Je suis parfaitement d'accord avec l'honorable Ngoïta Sanji lorsqu'il dit qu'il faudra à tout prix qu'on fasse très attention sur quelle manière ce contrat programme pourra être signé et rédigé, même son contenu. Le contrat programme entre le président de la République et les gouverneurs de province devra porter sur le programme du gouvernement adopté par l'Assemblée provinciale. Et c'est dans ce programme du gouvernement que le chef de l'État devra puiser certaines grandes lignes qui cadrent avec sa politique, puiser du programme du gouvernement des provinces et qu'il sera en train d'évaluer conformément au calendrier de la tenue des conférences des gouverneurs. Parce que c'est la seule instance qui permet à ce que le président de la République, pas le gouvernement central, puisse faire le suivi de cette manière-là. Je voudrais rappeler ici que le processus de la décentralisation, et là j'interpelle encore le chef de l'État, qu'il puisse le réveiller. Il est tombé en sommeil depuis la mise en place des nouvelles provinces. Il y en a qui ont cru que la décentralisation s'est terminée avec la mise en place des nouvelles provinces, alors que c'est un processus qui a été tout simplement stoppé avec cet événement. Il faudra qu'il soit réactivé pour suivre comment les gouvernements provinciaux sont en train de mettre en œuvre le programme adopté par les assemblées provinciales. Je voudrais encore rappeler que le principe de libre administration des provinces n'appelle pas qu'il y ait des interférences dans les missions qui sont dévolues à chaque institution, que ce soit les deux institutions provinciales et l'institution pouvoir central. Il n'y a pas de pouvoir de tutelle entre le pouvoir central et les provinces. C'est pour cette raison que la Constitution a prévu à ce qu'il y ait une conférence des gouverneurs qui constitue une instance d'échange sur les grandes politiques à adopter. Là-dessus, le chef de l'État dispose de deux instruments majeurs. Le premier instrument, il faudra qu'il y ait, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et des suivis, une crise persistante entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, où le président de la République peut frapper l'un ou l'autre, que ce soit le gouverneur de province ou la question de la dissolution de l'Assemblée provinciale en concertation avec les deux chambres du Parlement. Mais pour y arriver, il faudra absolument que les problèmes qui vont se poser puissent s'orienter dans les sens que la loi a essayé d'évoquer là-dessus et je venais d'en parler. Alors, je voudrais en même temps revenir ici sur la question des nouvelles ou anciennes personnes. Moi, je pense que dès lors qu'il y a un mécanisme qui permet à ce qui est ce qu'on appelle le pouvoir de redevabilité, parce que cette redevabilité n'est pas seulement vis-à-vis de la population, mais le chef de l'État, en vertu de l'article 69, il peut aussi rendre le gouverneur de province redevable par ce mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du programme provincial. Il n'y a pas un programme qui peut être imposé, comme l'a dit le gouvernement de l'État. Je suis parfaitement d'accord. Ce programme-là, on a rapproché le gouvernement de gouverner à travers la décentralisation. Donc les assemblées provinciales vont adopter le gouvernement présenté par les gouvernements provinciaux. Et c'est sur ce programme-là que le contrat programme doit puiser les éléments entre le président de la République dans les différentes tranches pour suivre dans une certaine mesure concernant une certaine périodicité. Parce que ceci va booster tout ce qu'il y avait comme léthargie au niveau de la plupart des provinces que nous connaissons. Ceci va stimuler le contrôle parlementaire des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales vis-à-vis des gouvernements provinciaux. Et ceci va permettre à ce qu'il y ait un développement uniforme, qu'il n'y ait pas un développement à plusieurs vitesses comme on l'a constaté aujourd'hui. Notamment l'utilisation de tout ce qu'il y a comme rétrocession qui vient du pouvoir central. Ainsi de suite, et même l'utilisation des recettes locales, parce qu'on ne peut pas les affecter, par exemple, à ses besoins personnels. Ce sont de l'argent. C'est de l'argent qui doit être utilisé pour les besoins de la population au niveau provincial.
Merci,
voilà
Maître
comment
Soudi.
Nous pensons réfléchir autour de cette question.
D'accord, on vous redonne la parole tout à l'heure. Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa pour le député Alphonse Ngoyi Kasangi.
Diedo Mutoke à partir de Kinshasa. En choisissant la décentralisation comme mode de gestion des composantes et entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo, les législateurs congolais pensaient que le vrai développement de ce pays proviendrait de la base. Mais hélas, avec les pouvoirs lui reconnus par l'actuelle constitution, le président de la République, chef de l'État, devrait sanctionner certains gouverneurs des provinces qui ont abandonné leur mandat au profit des membres de leur famille au niveau des assemblées provinciales pour s'enrichir dans la territoriale, alors considérée comme épine dorsale de la reconstruction et du développement de notre pays. Agir sans complaisance aiderait la plupart des Congolais qui veulent toujours faire la politique de leur ventre au lieu de servir leurs concitoyens.
Monsieur Ngoï Kassanji, le chef de l'État doit agir sans complaisance.
Oui, Madame Kelly, je réponds à M. Diego de cette manière. Il a parlé des gouverneurs de province qui ont cédé leur siège aux membres des familles et le chef de l'État doit les sanctionner. Écoutez, j'aimerais lui dire que l'article 104 de la Constitution est clair là-dessus. On élit le candidat sénateur, par exemple, avec ses deux suppléants. La CENU porte à la connaissance des électeurs le nom du candidat et de ses deux suppléants. Cela voudrait dire que les électeurs élisent le candidat avec, c'est ce que la Constitution dit, avec ses deux électeurs, ses deux suppléants. Cela voudrait dire que et le candidat et les suppléants sont tous des élus. C'est ce que la Constitution dit. Et la Constitution n'a pas dit que ces suppléants-là ne doivent pas être les membres des familles ou doivent être puisés ailleurs. Non, la Constitution est précise sur cette matière-là. J'aimerais que ce que la Constitution n'a pas dit, qu'on se réserve du droit, qu'on ne puisse pas condamner cela, qu'on respecte l'esprit et la loi de la Constitution. Et donc, si quelqu'un, un candidat, a un membre de famille qui est aussi membre de son parti et qui l'aligne et que les électeurs le voient, ce suppléant influence l'élection du candidat. Où est le mal? Voilà. Donc, et aussi, donner au chef de l'État le pouvoir qui dépasse sa marge de manœuvre constitutionnelle revient à vouloir instaurer une forme de dictature. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Le chef de l'État, il est là, il a ses prérogatives constitutionnelles, il agit selon ses prérogatives constitutionnelles et en point inscrit. Quand il dépasse ses prérogatives constitutionnelles, eh bien,
c'est ça qu'on appelle. Qu'est-ce qui va se passer?
Non. Et ça, il faut éviter. Il faut que notre peuple sache que le chef de l'État a été élu et sur base de la Constitution et il a juré devant les instances compétentes de respecter la Constitution. Et donc, s'il doit agir, s'il doit sanctionner, il doit le faire sur base de la Constitution. Voilà, c'est sa Bible. Il est avec cette Bible. Il la regarde, il la respecte d'un bout à l'autre. Et donc, vouloir l'amener dans les matières où il n'a pas compétence, eh bien, c'est l'induire en erreur.
Merci, Ngoï Kassanji. Simon Ikeng, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient depuis la ville d'Ouvira.
Denis Mugabo, depuis la ville d'Ouvira. La majorité des Congolais espèrent voir véritablement le changement promis par Katch. Mais également, la plupart restent sceptiques au regard de ce qu'on rencontre l'inexistence des accords entre Katch et le FCC. Non seulement en matérialisant son programme dans son ensemble, et particulièrement dans les contre les antivaleurs, que le peuple sera édifié et va de nouveau placer sa confiance aux autorités actuelles. Disons vrai, la quasi-totalité des Congolais étaient déçus avec les élections des gouverneurs qui, pour la plupart, provenaient du FCC. Pouvons-nous espérer qu'avec les triples engagements des gouverneurs, la bonne gouvernance économique sera démise dans nos provinces? Nous attendons les premières sanctions au premier trimestre, car nombreux gouverneurs ne se sont pas fait élire pour le bien des Congolais, plutôt pour remplir les poches à l'instar de leurs prédécesseurs. Le nouveau régime doit donc développer plusieurs stratégies pour les mettre hors d'état de nuire et pour y parvenir, il doit renforcer le secteur de la justice et les services de renseignement. Aux uns et aux autres de servir le peuple, autrement, 2023 sera encore plus compliqué pour eux.
Laurent Simon Ikenge.
Merci, je crois que je n'ai rien à commenter parce que notre compatriote fait presque la même lecture que je venais d'étaler tantôt. Mais si je peux placer un mot par rapport à l'intervention du gouverneur Ngoï, ou mieux plutôt de mon collègue honorable Ngoï Kassandji, je dirais ceci, que le président de la République est le garant de la Constitution. Il est aussi le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Et ici, personne ne peut le menacer. Toutes les hésitations que nous commençons à suivre, sinon quoi ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Le président de la République prend de bonnes initiatives pour que le pays marche. Et je signale ici, je souligne que je suis de l'opposition. Je ne suis pas de leur majorité. Mais en suivant les débats jusque-là, c'est comme si j'étais de la majorité et eux étaient de l'opposition, parce qu'ils mettent le président de la République en garde. D'ici, tu bouges à gauche, sinon, je crois que c'est ce que j'ai dit ici.
Il demande à ce que le président respecte la Constitution.
Le vin nouveau du président Tshisekedi est malheureusement versé dans les vieilles outres. Les vieilles outres qui ont leurs vieilles habitudes des opérations retour, de financement des partis politiques. Une autorité nationale va en province, mais il est pris en charge par la province, alors qu'en partant de Kinshasa, il a les frais de mission, mais il n'utilise pas les frais de mission. Il amène tout un village, toute une délégation aux frais de la province, alors que tout cela n'a pas été budgété.
Le chef de l'État promet de combattre avec la dernière énergie la corruption.
Il faut y mettre un terme. Et l'ensemble de la population, nous de l'opposition, si le président de la République marche sur cette voie, nous de l'opposition, nous allons le soutenir avec l'ensemble de la population. Parce que ce pays ici a déjà été suffisamment pillé, suffisamment détruit, et que s'il y a quelqu'un congolais qui s'élève pour le redresser, je crois que toutes les bonnes volontés seront derrière cette personne. Voilà.
Alors, il y a Jean-Michel Tchoucha qui réagit à votre première intervention. Il dit, je pense que tous les gouverneurs ont intérêt à suivre les orientations du chef de l'État, car au finish, l'action et l'engagement de chacun par rapport à la vision du chef déterminera son évaluation personnelle et non celle du FCC ou de son autorité morale.
Tout à fait. Tous les gouverneurs sont des fonctionnaires de l'État congolais. Ils sont payés par le compte du trésor congolais, par les contribuables congolais. Tout le monde doit plutôt loyauté, fidélité au nouveau président de la République.
Vous avez émis des craintes par rapport à ça.
Pardon ?
Vous avez émis quelques craintes par rapport à ça.
Justement, c'est ça, quand j'évoque les outres, les vieilles outres. C'est à cause de ça. Parce que les gens ne veulent pas suivre ce qui est bon. Et moi, j'en sais quelque chose. J'ai été ministre de la fonction publique. Je n'utilise pas le micro aujourd'hui pour ça. Je crois que dans ces pays, quand vous voulez redresser les choses, on dit Yom Tokobongisamboko. Je crois que même vous avez déjà entendu pareille déclaration.
Merci. On va prendre cette autre réaction pour Maître Soudi, une réaction qui nous vient de Badolité.
Albert Bomanga, je vous appelle depuis la ville de Guadolité, au nord Ubangi. C'est bien bon ce que le président a dit à ce jour, à l'ouverture de cette conférence. Bon, dire que non, il va commencer à sanctionner les gouverneurs qui ne seront pas capables, à mesure, dans les 3 mois, c'est un peu compliqué, parce que nous savons que les gouverneurs ont été élus par des députés. Pour évincer les gouverneurs, là, il faudrait que c'est le député qui fasse au moins des motions. Bon, je sais pas. Dans quelle mesure le président de la République va sanctionner ces gouverneurs-là? Parce que nous savons que beaucoup de nos gouverneurs qui ont été élus là, ils viennent du FCC. Et la deuxième préoccupation est de savoir, est-ce que la plateforme FCC va laisser vraiment les chefs de l'État travailler dans la facilité?
Maître Soudi Kimputu.
Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je voulais dire que nous puissions dépassionner les débats, que nous puissions aussi le dépolitiser. Le débat, il est plus technique, que politique. Parce que moi, je ne vois pas, par exemple, un responsable du FCC qui puisse supporter un gouverneur voleur, par exemple. Ou encore un responsable de l'opposition, c'est vice-versa. Ou là où il y a un gouverneur de l'opposition, que les responsables de l'opposition puissent supporter un gouverneur qui a de la même gestion. Le débat, il est plus technique. Je parle comme expert en décentralisation. Le pays a souffert. Nous avons mené des analyses ici. Et que nous avions pensé qu'il faudrait d'autres mécanismes de contrôle, d'autres mécanismes de suivi des mises en œuvre. Aujourd'hui, il y a des provinces qui ont... Si vous arrivez dans ces provinces-là, c'est comme si vous arriviez dans des grands villages. Et pourtant, ces provinces ont existé. Les moyens ont été dotés à ces provinces. Je vais vous dire une chose, par exemple. Le fonctionnement de tous les organes de suivi qui ont été mis en place par les lois et les gouvernements à l'époque. Lorsqu'il y a séparation, par exemple, du ministère de l'Intérieur au ministère de la Décentralisation. À un moment donné, il y a une confusion, c'est pas entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation qui doit poser tel ou tel autre acte dans le cadre de la mise en œuvre de cette décentralisation et d'assurer le suivi. Je prends le cas de la conférence des gouverneurs. Celui qui prépare la réunion de la conférence des gouverneurs, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais quand on a séparé le ministère de la décentralisation, le ministre de la décentralisation, il est invité. Alors que c'est un processus qui doit être mis en place et suivi par celui-là. Je voudrais même conseiller que le nouveau gouvernement ne puisse pas séparer les deux choses. Ou encore, on les sépare et on revoit toutes les lois pour mettre à l'aise celui qui a en charge la question de la décentralisation. C'est lorsque ces mécanismes-là ne marchent pas. Le mécanisme de contrôle a échoué. Il faudra prévoir un autre mécanisme qui est là. On peut se poser la question aujourd'hui. Si vous voyez tous les rapports des conférences des gouverneurs qui sont passés, d'ailleurs qui se tenaient difficilement, après vraiment de longs moments, il n'y avait pas d'évaluation. Et pourtant, l'article 210 dit que le président de la République se retrouve avec les gouverneurs de province pour discuter des politiques à mettre en œuvre, les politiques à mettre en œuvre pour les besoins de la population. Et je crois que c'est clair. Je suis parfaitement d'accord avec l'honorable Nyenka Sandi que ça ne doit pas être un contrat imposé du président de la République aux provinces parce que nous sommes dans un régionalisme politique. Il y a absence de tutelle du pouvoir central aux provinces. Ça doit être le programme adopté en bonne et due forme par les institutions provinciales sur lesquels le président de la République peut exercer un suivi à travers la conférence des gouverneurs. C'est la seule instance.
Et peut exercer, là, mais ne doit pas.
Le pouvoir de l'article 69.
Vous dites qu'il peut exercer, mais ne doit pas exercer. C'est pas...
Non.
C'est pas contraire.
Oui, il peut, tout comme il doit exercer s'il trouve que c'est prioritaire dans son programme d'action. Parce que la conférence des gouverneurs, c'est une sorte d'institution mise en place par la Constitution. Avec un règlement intérieur, avec un programme, un calendrier même détenu de manière rotative. Pourquoi on a mis ça de manière rotative? C'est pour permettre à ce que le chef de l'État, avec les différents ministères, invités dans le cadre de cette évaluation. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une province comme la Tuapa ou le Olomami. Vous regardez l'état de route. Dans le cadre du programme prioritaire de ces gouvernements provinciaux, ça doit être des routes. Et lorsqu'on arrive à la conférence de gouverneurs d'évaluation, on doit voir combien d'argent les assemblées provinciales ont adopté pour la mise en place de ce programme. Et les chefs de l'État doivent leur donner un délai pour la mise en œuvre de leur propre programme dans le cadre de suivi des politiques à mettre en œuvre. Qu'on lise la Constitution, vous allez voir. Et ça, c'est du nouveau. Et je crois que ça va booster. Mais quant à la question de la sanction, le président de la République peut mettre en accusation un gouverneur de province à travers une assemblée provinciale. Et il faut suivre ce que la Constitution et les lois disent pour arriver à poser cette sanction. Vous voyez toutes ces questions-là, je crois que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on puisse dépassionner les débats, qu'on ne soit pas plus, beaucoup plus politique, voilà, FCC, opposition, majorité. Non, non. Restons dans un débat technique parce que ce sont nos populations qui sont concernées.
Merci, voilà. Je vais vous redonner la parole pour conclure. Il nous reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Alphonse Ngoyi Kassangi, je rappelle que vous êtes député national et ancien gouverneur de la province du Kasaï-Oriental. Quelle chance vous donnez à cette innovation de signature de, d'un contrat programme, vous pensez que ça va marcher?
Bien, nous donnons la chance que ça marche, mais en respectant l'esprit et la lettre de la Constitution. On l'a dit, les évaluations doivent se faire à travers la conférence des gouverneurs. Et pour les convoquer, c'est chaque 6 mois. Et donc, les programmes à évaluer doivent être les programmes que les gouvernements provinciaux ont fait voter devant leur assemblée provinciale à l'occasion de l'investiture de leur gouvernement respectif.
Monsieur Kassaji, on a eu des conférences des gouverneurs, des recommandations issues de ces conférences des gouverneurs, mais qui n'ont jamais été appliquées.
Écoutez, nous voulons innover. Voilà pourquoi nous encourageons la démarche du chef de l'État d'évaluer les programmes, les contrats-programmes des gouverneurs de province. Mais j'espère aussi, parce qu'il y a un élément important, sans moyens, on ne peut rien faire. Les gouvernements provinciaux passés ont passé des moments très difficiles. Ils se sont plaints du non-décaissement de fonds liés aux investissements. Ils ont des chiffres dans leur budget, leur communiqué par l'Assemblée et par les instances nationales, et ces chiffres-là n'ont jamais reçu le fonds. Et si on assigne un programme, on assigne des obligations à un gouverneur sans moyens, eh bien, c'est l'échec. On ira d'échec en échec. Et j'aimerais attirer aussi l'attention de la population. Il ne faut pas simplement regarder les gouvernants. Il y a aussi les obligations de gouverner la population elle-même. C'est à travers elle. C'est elle qui va acheter des choses au marché. On lui dit, tu ne peux pas payer si tu appliques la TVA, tu vas acheter cet article à plus cher. Et si tu ne payes pas la TVA, tu l'achètes à moins cher. Elle accepte de payer à moins cher pour ne pas payer les taxes de l'État. Où l'État trouvera-t-il l'argent pour construire les écoles, pour construire les routes, pour
Merci.
Les bénéfices de la population?
Alors, on va considérer cela comme votre conclusion. On n'a plus beaucoup de temps, M. Ikenge, votre conclusion. Quelle chance vous donnez à ce contrat-programme?
Le contrat-programme, à mon avis, doit être négocié et signé avant que les gouvernements provinciaux ne puissent déposer leur programme au niveau des assemblées. Parce qu'il faut intégrer la vision du chef de l'État en identifiant les axes prioritaires et les actions concrètes à mener pendant un temps. Et il a dit, le programme c'est pour 5 ans, mais il faut qu'il y ait le court terme, le moyen terme pour arriver au long terme. Deuxièmement, je salue la vision du chef de l'État parce qu'il insiste sur l'homme qu'on doit mettre au centre. Et l'homme ici n'est pas seulement le bénéficiaire de toutes les actions du gouvernement, mais l'homme est aussi, c'est lui, l'acteur principal de son développement. Et parce qu'il faut craindre ici que l'homme ne soit un frein contre son propre développement.
Merci.
Et parmi les freins, je crois que nous sommes témoins, nous suivons toutes les hésitations de
Merci.
Ceux-là chargés d'appliquer justement le contrat programme.
Merci Laurent Simon Ikenge. Maître Soudi, en une phrase, votre conclusion.
Je pense que ça serait une violation de la Constitution si le contrat programme est signé avant l'adoption des programmes des gouvernements provinciaux par respect au principe de libre administration des provinces. Mais par contre, je pensais que lorsque se puiser dans les programmes des gouvernements provinciaux.
Merci, Maître Soudis. La fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.